donner le nom des acteurs principaux. Il y a Virginie Efira dans le rôle de la mère, Félix Lefebvre et Arié Vorteler, mais il me manque un nom, alors je ne sais plus le nom de l'actrice assistante sociale, c'est dommage, je ne l'ai plus en tête.
D'accord. Voilà,
quelqu'un qu'on voit assez souvent à la télé, au cinéma. Ah,
d'accord, en tout cas, oui, il joue très bien.
Oui, oui.
Les, surtout le garçon, Sophia, ça m'a sidéré.
Ah ben c'est le frère aîné qui
c'est
m'a épaté.
Aîné, comme quoi.
Voilà.
Bon, Virginia Efira, on la connaît. Bon, ben notre émission s'arrête là. Tu voulais dire quelque
non,
chose?
Non, je voulais vous remercier de cette invitation, tout simplement.
Oui. Pendant la pause musicale, nous avons écouté le groupe Paris au Jazz avec Rosane Fernandez et Laurent Mellout.
Okay. Exact, voilà. J'allais le dire, mais donc, merci, hein, tu m'as pris la parole, c'est très bien, comme ça c'est assez annoncé. Paris au Jazz, oui, effectivement.
Merci.
Merci.
Voilà, on vous remercie. Au revoir.
Au revoir.
Tu étais si gentil, tu apprenais tes leçons, tu étais un bon garçon, mais t'es devenu trop con. Mon ami, mon frère, où tu m'as mis là dans un embarras où tu m'as mis là, tu m'ennuies, bon débarras. T'as voulu faire ton machin, t'as voulu faire comme Bidule, t'as voulu imiter Trucmuche, mais nous on s'en fout de Trucmuche. Mon ami, mon frère, où tu m'as mis là dans un embarras où tu m'as mis là, tu m'ennuies pour des barras. T'as voulu nous impressionner, t'as voulu te faire mousser, finalement tu t'es fait choper et du coup on a tous traqué. Mon ami, mon frère, où tu m'as mis là dans un embarras. Un embarras où tu m'as mis là, tu m'ennuies, mon débarras. Mon ami, mon frère, où tu m'as mis là, dans un embarras.
Un embarras,
un embarras où tu m'as mis là, tu m'ennuies, mon débarras. Mon ami, mon frère, 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 mon ami, mon frère. Mon ami, mon frère, mon ami, mon frère, où tu m'as mis là dans un embarras, où tu m'as mis là, tu m'ennuies dans les barras. Mon ami, mon frère, où tu m'as mis là dans un embarras, où tu m'as mis là, tu m'ennuies dans les barras.
Thank you. Sono le 22:30.
Tel un vampire métamorphe interdimensionnel, je meurs et je renais à chaque fois, tout comme cette émission de Post Non Radio Show. C'est le vendredi, le jour des morts, et peut-être aussi des vivants, sur l'antenne de Radio Libertaire. Et je ne suis pas seul. Mes zombies m'accompagnent. Bonsoir Serge.
Bonsoir Henrik.
Bonsoir Guy.
Bonsoir Henrik.
Bonsoir Yves.
Bonsoir Henrik.
Merci.
C'est solennel.
Oui. Allez, bienvenue à toutes et à tous sur l'antenne de Radio Libertaire. Nous sommes toujours en direct après ce qui vient d'avoir lieu là. les amis d'antenne du social. Mais nous, on va décoller vers ailleurs. C'est un peu toujours le principe de cette émission. Alors, commençons bien. Commençons, comment dire, bien et juste. On va peut-être faire les annonces de Publico, comme d'habitude. Alors je prends mon petit téléphone. On commence par ça, hein, vous êtes d'accord?
Oui.
Oui, oui. Oui, oui, d'accord, oui, oui.
Je savais pas que j'avais le droit de décider. Oui, mais je suis d'accord.
Ici, nous ne sommes pas en démocratie. Nous sommes en anarchie. Et c'est moi qui décide. Oui. Vous cochez la case. Contradiction, incohérence, celle que vous voulez. Alors, les dernières animations, enfin non, pas les dernières, les prochaines animations Ah, il faut que je remonte de la librairie Publico. Ok, j'ai pas celle.
C'est peut-être encore sur l'ordi, je sais pas si tu peux regarder.
Oui, oui, oui.
Je les ai laissées, moi.
Oui. Celle sur mon téléphone commence.
On va passer une page de publicité en attendant.
Non, bah c'est bon, c'est le dimanche.
Dimanche, voilà.
21 janvier, à 16h. Causerie populaire et libertaire autour du livre Le remplaçant, journal d'un prof précaire de banlieue de Nedjir Sidi Moussa. C'est le groupe Commune de Paris qui vous invite à participer à une causerie populaire et libertaire en présence de Nedjib Sidi Moussa, auteur de ce bouquin. Jeudi 25, ensuite, à 19h, repenser l'État au XXIe siècle, libertaire et pensée critique du séminaire Étape, table ronde avec Sylvaine Bull, Philippe Cortuff, Géraldine Mulman et Albert Augien, animé par Guy Lagrange. Donc, de l'anthropologie, de du décolonialisme, de l'intersectionnalité, de la démocratie radicale, de l'économie sociale et solidaire, du droit, de la police, du racisme et de l'islamophobie, de l'école et de la culture. C'est tout ce qu'il y aura à discuter dans cette rencontre. Et ensuite, samedi 27, 16h, rencontre débat sur Michel Ragon et la littérature prolétarienne, avec Thierry Maricourt et Raphaël Romney. Et enfin, dimanche 28, 16h, concert de Frédéric. C'est une dame, Frédéric.
Oui, oui, exact.
Qui chante les peintres et les poètes, accompagné à la guitare par Didier Gejd. Je crois que c'est comme ça que ça se dit.
Oui, Gage, oui, oui.
Gage, pardon.
Oui, oui, oui.
Vincent, Auguste, Paul et les autres. Voilà, c'est le programme de la librairie pour cette moitié du mois de janvier. Alors, est-ce que j'avais quelque chose d'autre à dire, peut-être? Oui, je crois qu'on a reçu un mail sur le programme de l'Université populaire et libertaire de février 2024. Et ça se tiendra à la librairie Publico, mais je pense qu'on en parlera en février. On en parlera pour le programme de février, en fait. Ben voilà pour les annonces. Est-ce que on commence tout de suite?
Alors, Yves, Guy,
pourquoi pas?
Allez,
on commence l'émission.
Oui, alors sinon j'envoie un morceau de musique.
Peut-être démarrer par une musique, oui. Oui.
Ah, il y a personne qui est chaud là.
Bon.
Allez, bah une musique.
Ça donne le ton, quoi.
C'est le Poste Non-Radio Show. Salut. C'est le Club des Déglingués qui te parle. Et maintenant, on va te parler. Alors, écoute bien.
Voilà.
Écoute bien, il y a plein de choses.
On va peut-être commencer par Yves.
Moi, j'ai un truc sur les routiers. Vous n'y attendez pas, mais... exactement les routiers, c'est...
D'après Max, ils étaient sympas.
Voilà, oui.
Ils ne le sont plus.
C'est beaucoup de souvenirs, ça. Ça veut dire qu'on est bien, bien, bien...
Loin, loin de cette époque.
Oui, oui.
C'est un article que je n'ai pas sous les yeux, mais j'ai noté, c'est un article du 4 janvier, page 21, dans Le Monde, où ils disent que, bon, le service militaire, comme vous savez, il n'est plus obligatoire. Je viens de regarder sur Internet la date, c'est en 2001, la conscription est arrêtée, et c'est une décision de 96 de Chirac.
Oui.
Et on a un problème de routier, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à en recruter. Le problème étant que lorsque les gens faisaient leur service militaire, il y en avait beaucoup qui passaient leur permis poids lourd, et donc ensuite, ils intégraient le métier routier. Bon, voilà. Or, ce service s'étant arrêté en 2001, on est 22 ans après, 23 ans après, et apparemment, on n'a pas fait attention.
Oh merde!
On n'a pas fait attention, et donc ces gens qui avaient le permis routier et qui s'engageaient comme ça, ils sortaient des services militaires, et ben, ils se présentaient à un employeur et hop, ils étaient embauchés. On a une grave pénurie de routiers en France. Apparemment, d'après cet article, qui est lié au fait qu'on n'a pas su anticiper.
Oui, mais comme ils roulent bourrés, drogués, à poil, qu'ils ont plein d'accidents, qu'ils défoncent les bagnoles et les gens sur les autoroutes, c'est normal, morts.
Non, stop. N'importe quoi. Non, mais c'est un article...
Sont tous les routiers.
J'ai juste marqué sur ma feuille 401, page 21, routier, c'est le journal Le Monde. C'est un article qui m'a surpris, parce que On a une imprévoyance comme ça, ça nous tombe dessus.
Oh, merde.
On peut pas trop prévoir quand on fait un texte. Mais voilà, il y a pas eu seulement une imprévoyance quant au nombre de médecins, il y a eu aussi une imprévoyance quant au nombre de routiers. Et donc on a des problèmes de recrutement actuellement, parce que passer un permis poids lourd, c'est pas si simple que ça. Et
c'est pas donné aussi.
Et peut-être. Puis c'est pas donné, voilà. Alors que bon, à l'époque, c'était compris dans le service militaire, quoi. Voilà, donc ça c'était...
Ben c'est sympa de nous le rappeler, on n'a strictement rien à foutre de ton information. C'est génial.
Ok, mais
qu'est-ce qui te prend de nous parler des routiers, là, ce soir?
Eh ben, c'est des gens importants en France.
Oui, bien sûr, ils obstruent les autoroutes.
En Pologne, notamment.
Non, ici en France aussi, arrête.
Ah, j'ai pas suivi l'actualité, alors.
Ah bah attends.
Autrement, j'avais un article, alors, sur des hauteurs différentes... C'était un article du 10 janvier dans Le Monde, toujours, du 11 janvier dans Le Monde, qui est un article qui parle de la réaction de Macron et de François Sureau au passage de cette loi sur l'immigration. Et donc, Macron a présenté ses vœux au Conseil constitutionnel et il s'est fait sermonner, dit l'article, par deux fois. La première, c'est venu du président du Conseil, Laurent Fabius, qui de la salle des fêtes de l'Élysée lui a reproché entre les lignes de traiter l'état de droit avec une certaine légèreté. Il ne digère pas en effet la désinvolture de plusieurs membres de l'exécutif qui, avant Noël, ont reconnu explicitement que plusieurs dispositions des projets de loi sur l'immigration n'étaient pas constitutionnelles, en espérant que le Conseil censure les articles dictés par les Républicains qu'ils assumaient le moins sur le plan politique. Il dit, ouvrez les guillemets, donc, le Conseil constitutionnel n'est ni une chambre d'écho des tendances de l'opinion, ni une chambre d'appel des choix du Parlement, mais le juge de la constitutionnalité des lois. Et il a regretté que cette définition simple ne soit probablement pas ou pas encore intégrée par tous. C'est un peu dur. Et il a critiqué la confusion chez certains entre le droit et la politique et a appelé à respecter l'état de droit. En France, le président du Conseil constitutionnel appelle lors des vœux le président de la République à respecter l'état de droit, que se définit par un ensemble de principes cardinaux comme la séparation des pouvoirs, le principe de l'égalité et l'indépendance des juges. Alors évidemment, la charge vient de quelqu'un qui est un adversaire politique qui est tenu cependant au devoir de réserve. Elle est quand même sévère. Mais il se trouve qu'une autre est arrivée au même moment, cette fois d'un ami. de Macron. De l'autre côté de la Seine, dit l'article, écrit par M. Franck Johannes et Solène Deroyer, cet avocat, écrivain et académicien François Sureau était invité à ouvrir la séance de rentrée de l'Académie des sciences morales et politiques sur le thème de la justice. Et il a vivement critiqué la manière dont, après avoir favorisé un compromis sur la loi relative à l'immigration, comme si la Constitution ne tenait en rien, l'exécutif a saisi le constitutionnel sur le texte qu'il avait voulu. Alors, l'auteur dit... Enfin, l'auteur du Chemin des morts chez Gallimard en 2013, que le chef de l'État apprécie et avec lequel il aime parler littérature ou choses militaires, a ironisé sur les propos du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui, le 19 décembre, avant le vote définitif du projet de loi sur l'immigration à l'Assemblée nationale, avait lâché « Le travail du Conseil constitutionnel fera son office, mais la politique n'est pas être juriste avant les juristes. » Les propos... des propos prononcés benoîtement dans un pays censément régi par l'état de droit et qui traduisent, selon M. François Sureau, une attitude insensée qui l'a agacé. Et il est impitoyable avec le ministre de la Justice et ses collègues du gouvernement qu'on ne peut plus guère prendre au sérieux, dit-il, leurs propos n'étant que feuilles au vent. Il ajoute... dans un long discours vibrant et inspiré, l'inflation législative, une rivière en crue, dont la classe politique a besoin pour laisser croire qu'elle agit, après un fait divers, une loi, résume-t-il en substance, égratignant l'émotion qui s'empare de la classe politique après qu'un drame a suivi une mise en liberté prononcée en toute constance par un juge indépendant. Il a regretté la multiplication des entorses aux libertés individuelles, dont il a toujours été un ardent défenseur, qui détricote les cas de droit. Peut-être faut-il voir, dit-il, dans cet état d'esprit qui nous fait préférer l'incessante modification des normes à la réflexion sur les pratiques, un trait du caractère national. Il en résulte une confusion qui a eu pour effet de dégrader les grands principes sans en obtenir aucun progrès dans le sentiment général de la sécurité publique. Il a notamment visé les multiples recours à l'état d'urgence qui révèlent une étonnante perte de confiance dans la vertu et les possibilités de nos institutions de droit commun. Ce qui laisse affleurer aussi l'idée que les institutions ne vaudraient que pour les temps calmes et la garantie des droits du citoyen avec elles. Il a attaqué, par exemple, la possibilité d'opérer des tests génétiques dans le cadre de la lutte contre le dopage, votée par les députés en mars 2023, en prévision des Jeux Olympiques, évidemment. Il dit « Les tests génétiques auxquels nous nous refusions depuis 30 ans, viole le règlement européen sur la protection des données. Hier, le terrorisme ou la pandémie, aujourd'hui le sport et l'argent, demain les préoccupations climatiques. On voit bien qu'un motif après l'autre, nous nous éloignons paisiblement de notre idéal, a-t-il grondé. Jamais les facilités d'intrusion qui ont été consenties à l'État n'ont été aussi grandes, surveillance, dévoiement de la garde vue, et j'en passe. Alors qu'Emmanuel Macron préparait ce remaniement, donc on était le... C'était le 11 janvier, donc on était le 10. François Sureau, qui s'est éloigné du président, a dénoncé les faux-semblants du petit théâtre national où prévaut désormais le principe de l'échange des rôles. Chacun y fait le travail d'un autre. Les procès tweetent comme des journalistes, les ministres tweetent comme des journalistes et parlent comme des fonctionnaires, ainsi pour eux. Le Premier ministre n'est plus ce qu'il était. Les éditorialistes forment le shadow cabinet le cabinet fantôme donc de toutes les oppositions. Et les parlementaires se rêvent juges d'instruction. Et pour lui, qui s'est défendu d'être un humaniste bêlant, toutes ces évolutions alimentent la crise morale, la crise de l'action publique, comme notre perte de foi dans la grandeur de ce que nos prédécesseurs avaient, au prix de quelques batailles, de quels sacrifices... Donc c'est un article écrit par Franck Johannes et Solène Royer. Ça me semblait intéressant de le dire.
Ah bah oui, ça nous manquait des articles.
Oui, ça me manquait beaucoup de l'entendre.
Ah oui, ça nous, Ça nous manquait des longs articles.
Parce que sinon, il y a des longs, longs monologues à la télévision en ce moment qui durent à peu près 2 heures avec des questions dont les uns se demandent si elles sont prévues à l'avance ou pas. En tout cas, le passage du micro donc, est prévu voilà. à l'avance ou pas. Et donc, c'est réjouissant d'entendre ce genre de discours. Voilà. C'est réjouissant et concernant.
Oui, sur les...
Je m'explique, c'est réjouissant que quelqu'un réagisse.
Comment dire, sur les rouages, des institutions de notre chère République.
C'est quand même la première fois que on fait adopter un texte en sachant qu'il est inconstitutionnel. La première ministre non seulement le sait, mais elle le dit. Le ministre de l'Intérieur dit que c'est pas son boulot, c'est le boulot des juges. Et quand le chef d'État, il fait pareil. Et la première chose qu'il fait, comme il sait que c'est inconstitutionnel, apparemment, il est fait reconnaître constitutionnel. Mais il le sait. Il n'a pas de doute, il le sait. Bon, c'est très différent de la pratique, disons. Le Conseil constitutionnel, il est juste là pour vérifier si un texte n'est pas en contradiction avec les textes fondamentaux de la République. Il n'est pas là pour autre chose. En tout cas, il n'est pas là pour arbitrer entre les propositions qui viennent de la commission mixte paritaire, qui pour moi s'est réunie. Je suis stupéfait qu'elle se soit réunie, pour tout dire, parce que normalement, elle se réunit sur 2 textes. Il y a le texte de l'Assemblée nationale et puis le texte du Sénat. Et il y a des délégués des 2 chambres qui viennent pour essayer de faire un texte commun. Bon, très bien. Là, il n'y a pas de texte issu de l'Assemblée nationale, puisque ça a été rejeté par une motion préalable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les 2/3 des parlementaires refusent de discuter du texte parce qu'ils jugent que c'est pas utile, pas le moment, etc. Un tas de considérants. Et le pouvoir juge quand même utile de passer par-dessus cet avis. Mais de quoi on discute alors en commission mixte paritaire ? Du texte proposé par le gouvernement et du texte... C'est pas le texte de l'Assemblée nationale, c'est le texte proposé par le gouvernement et le texte du Sénat qui proposait en plus la disparition de l'aide médicale d'État pour les étrangers. Bon, bref, c'est assez constant. Mais ça, c'est mon avis personnel, je suis pas juriste. Attendons le 25 janvier.
Et ici, le 25 janvier.
Le 25 janvier, il y a la décision du Conseil constitutionnel quant aux différents articles du texte de loi. Décision sur laquelle compte apparemment le chef de l'État et les ministres Darmanin et à l'époque Elisabeth Borne pour dire on vous l'avait bien dit que c'était pas constitutionnel et voilà, ça l'est. Bon, alors il faut écrire autre chose. Bon, très bien. D'autant plus qu'il présente ça comme un texte indispensable sur l'immigration. Moi, je veux bien, mais le texte sur l'immigration lui-même, il a été voté à peu près au même moment au niveau européen, puisque c'est les frontières de l'Europe dont il s'agit. Et on a fait beaucoup moins de bruit sur ce qu'ont voté les députés européens que ce qui s'est passé à la Chambre. Ça aurait peut-être dû être l'inverse.
Bien, merci Yves.
Oui, j'ai donné un peu mon avis là.
Non, mais c'est très bien. On est ici pour donner notre avis.
C'est le but.
C'est le but. Enfin voilà, moi j'ai rien compris. Je suis un peu fatigué. Faudra que je me refasse une. Enfin, je réécoute le podcast pour savoir de quoi il s'agit.
Día de conejo, mi noche de elefante en descanso. Entre mí digo, esta es mi inmensidad en bruto a cántaros. Esta mi grato peso que buscará abajo para pájaro. está mi brazo, que por su cuenta rezó se ala. Estas son mis sagradas escrituras, estos mis alarmados compañones. Lugubre y la mia lumbara continental. Mientras el Capitolio se apoya en mi íntimo derrumba, el asamblea lanza clausura me desfile. Pero cuando yo muera de vida y no de tiempo, cuando llegan a dos mis dos maletas, esta de ser mi estomegón que cupo mi lámpara en pedazos. Cabeza que expió los tormentos de círculo en mis pasos, esos de sus gusanos que el corazón contó por unidades. Esta de ser mi cuerpo solidario por el que vela el alma individual. Esta de ser mi ombligo en que maté mis piojos natos. Esta mi cosa, cosa, mi cosa tremebunda. Tanto convulsiva esperamente convalece mi freno, sufriendo como sufro el lenguaje directo de león. Puesto que existo entre dos potestades de ladrillo, convalezco yo mismo sonriendo de mis labios. No es grato morir, señor, si la vida no nos deja, si la muerte no es posible, si nos sobra se nos deja la vida. No es grato morir, señor, si la vida no nos deja, si la muerte no es posible, si nos sobra lo que se deja la vida. No trato de morir, señor, si la vida nada se deja, si la muerte nada es posible, si no saber lo que pudo dejarse en la vida. No trato de morir, señor, si la vida nada se deja, si la muerte nada es posible, si no sobra lo que pudo dejarse en la vida. No trato de morir, señor, si la vida nada se deja, si la muerte nada es posible, si no saber lo que pudo dejarse en la vida.
The Post Non Radio Show. Des divagations.
Très beau morceau.
Il va encore y en avoir d'autres. C'était Diamanda Galas. Diamanda Galas dans un titre de 2003 déjà.
Et c'est quoi le morceau de piano qui est en entrée et puis derrière? C'est indiqué ou pas?
Du tout. Non. C'est la dame qui joue du piano.
Oui, mais...
Et qui chante en même temps.
Elle reprend un morceau classique, hein, non?
Ah, je ne sais pas. J'ai pas de précision. The Boston Radio Show. Tout le monde dort.
Non.
Refus de combattre. Russie, ah. Ukraine.
Ah.
Des deux côtés, en fait. Hein, y a réfractaires et déserteurs jugés et condamnés en Ukraine. Bah oui, là aussi. Alors, donc, selon la police nationale d'Ukraine, depuis le début de l'invasion russe, environ 8000 procédures pénales ont été ouvertes dans le pays pour des réfractaires à la mobilisation. Le registre national ukrainien des décisions de justice montre que si, en début d'année, les condamnations en vue de l'article 336 du Code pénal, réfractaires à la mobilisation, et l'article 408 du Code pénal désertion dans la région de Kharkiv étaient rares et isolées. Elles ont commencé à être tamponnées par paquets depuis le printemps et les sanctions en cas de non-présentation à une unité ont également été renforcées. Au milieu de l'été, le premier insoumis est apparu dans notre région. Il a été condamné à une peine de prison ferme. Cela est devenu habituel maintenant. Il est peu probable que ces données diffèrent beaucoup de la situation générale du pays. Un exemple typique de la manière dont une convocation a été à une unité peut être émise nous vient des réseaux sociaux locaux. Avant-hier, dans la rue Kibalchich, des policiers ont apparemment forcé un homme de 56 ans a monté dans une voiture et l'ont emmené au centre d'enrôlement où il a été déclaré apte au service en 20 minutes. Le lendemain, il devait se présenter avec ses affaires. Ces personnes rejoignent ensuite les rangs des objecteurs au sein des forces armées ukrainiennes, comme nous l'avons dit plus tôt. Depuis début août, la liste des condamnations est en première instance en vertu de l'article 336.1 multiplié par 12 multiplié par 6 en vertu aussi de l'article 408. Pendant cette période, le tribunal du district Leninsky de Kharkiv a établi un record en envoyant 5 réfractaires en prison, alors que l'un des condamnés avait un enfant mineur à charge. Un autre était un bénévole de la fondation caritative Eltsep Kharkiv et le troisième a expliqué son acte par sa réticence à laisser sa mère âgée seule. Il n'existe pas d'exemple de condamnation avec sursis au titre de cet article pour la durée précisée dans notre région. Chacun encourt 3 ans de prison ferme. Service militaire obligatoire. L'Ukraine suit le modèle russe. Le Parlement ukrainien se prépare à voter le projet de loi récent, hein, 18 septembre 2023, de création d'un registre électronique unique des assujettis au service militaire sur le modèle de la Russie, où la pratique de l'envoi des convocations en ligne est en cours d'introduction. Après avoir reçu la notification d'une interdiction de voyager à l'étranger, le conscrit russe devra remettre son passeport aux autorités dans les 5 jours. La seule solution contre ces deux États, l'anarchisme.
C'est foutre le camp dans les délais, quoi.
Oui, oui, oui.
Pour
oui,
l'Ukraine, t'as une journée, apparemment, et pour les Russes, t'en as 4 ou 5.
Oui, oui, oui. Alors, pour une seule... Ils disent une seule solution contre ces deux États, l'anarchisme. Les travailleurs ukrainiens devront devenir véritablement anarchistes, s'efforcer de rompre tout lien avec l'État et vivre dans la clandestinité, y compris en arrêtant de recourir aux soins médicaux, en vendant leur voiture et en réinitialisant leur carte bancaire qui est programmée pour être bloquée en cas de défaut de parution à une convocation.
Ah, ils en sont là.
Oh, dis donc.
On peut tout faire, hein, avec l'informatique, on peut tout...
Oui. La différence s'estompe de plus en plus entre les occupants et les nôtres, ce qui va affecter le climat politique en Ukraine, où règne de plus en plus le ras-le-bol de la guerre et la méfiance à l'égard de tout gouvernement, en particulier dans les régions proches de la ligne de front. Mais tant qu'une explosion sociale ne se produira pas en Russie, la contestation passive prévaudra. Clandestinité, retrait des avoirs, fuite du pays par toute route encore non bloquée. Argument de la propagande militariste ukrainienne et russe. L'un des principaux arguments de la propagande ukrainienne pour augmenter la mobilisation, c'est que la Fédération de Russie recrute chaque mois des dizaines de milliers de soldats sous contrat dans l'armée. Mais la liste recoupe en fait celle des recrues des gens en service qui rempilent, les mercenaires, ex-Wagner, etc. Et au lieu du levier idéologique, le Kremlin s'appuie de plus en plus sur l'argent et autres appâts s'il ne parvient pas à recruter assez. En Russie, la mobilisation forcée, facteur de désintégration de l'armée. Cependant, la mobilisation parmi les condamnés, les endettés et autres catégories forcées devient l'un des facteurs de désintégration de l'armée. Selon les statistiques du département judiciaire de la Cour suprême de la Fédération de Russie, pour le premier semestre 2023, le nombre de militaires condamnés a augmenté de 40% par rapport au premier semestre 2022. De janvier à juin, 2694 personnes ont été condamnées, dont 1270 pour délit contre le service militaire. Les crimes militaires ont été multipliés par près de 2,5. Ils comprennent le non-respect des ordres, la désertion, la cessation de service non autorisée, la simulation de maladie et la reddition volontaire. Alors, les objecteurs au goulag en Russie, la chaîne russe Telegram Astra a dénombré le 24 octobre pas moins de 173 militaires russes placés en toute illégalité dans des camps pour objecteurs et dans tous les territoires occupés d'Ukraine au cours des 10 derniers jours. À leur avis, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Certains ne veulent pas du tout se battre, d'autres refusent d'aller au massacre. On parle d'un sous-sol dédié à la torture de le village de Zetsevo, qui a commencé à fonctionner à plein régime l'automne dernier, puis après avoir été découvert et fermé. Mais est à nouveau opérationnel. Voilà. Après, il y a des cas récents de 150 soldats, objecteurs russes et tout, en nombre. Hein, je pense que...
Oui, il y a des femmes qui manifestent en Russie pour faire revenir leur mari ou conjoint, parce qu'il est sur le front depuis le début, et donc ils auraient voulu qu'il revienne et qu'il soit remplacé par d'autres. Il y a quelques manifs comme ça, sur la place Rouge même, j'ai vu. Elle dépose des fleurs. Ça prend pas un aspect aussi revendicatif que ce que je viens de dire là, mais disons, c'est le but, quoi.
Mais disons, elles le font, en tout cas.
Elles le font, oui.
Effectivement, puis elle déclare, là, par exemple, mon mari est mobilisé, il a refusé de passer l'offensive, là, ils ont été placés à tel endroit, et puis elle raconte tout le scénario par lequel il passe pour revenir, finalement. Ils les font monter au front, mais c'est quand même des personnes qui sont poussées et qui sont pas du tout prêtes à faire quelque chose. Hein,
c'est pas des militaires.
Ce ne sont pas des militaires et donc
ils ont pas envie de faire la guerre.
Ils reviennent quand même à 1.0, mais c'est 1.0 pour se retrouver quand même.
C'est comme nous, on n'a pas envie de faire la guerre.
En prison, exact. C'est exact. Hein,
peut-être un peu la révolution, mais pas la guerre.
Mais pas la guerre. T'as raison.
Mais cependant, j'ai cru comprendre. J'ai bien écouté notre grand vénérable et supérieur chef d'État. Et si au détour d'une question, j'ai cru comprendre qu'il allait généraliser le service pour le
SNU.
Le SNU, oui.
Ah oui, oui, oui.
Le
SNU.
Et par ailleurs, en lisant l'article tout à l'heure, là, j'ai vu qu'il discutait avec François Sureau littérature ou choses militaires. Et ça m'a rappelé un truc au moment du vote en 2017. Je m'étais dit, oh là 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 là, ce type sans expérience aucune... de la vie politique qui risque d'être élu, pourvu qu'on n'ait pas une guerre.
Non mais Yves, déjà, pendant le discours, pendant le Covid, discours militariste à connotation...
Nous sommes en guerre.
Phraséologique.
Ouais.
Oui. Et Lara, alors chose que j'ai absolument pas compris là où il voulait en venir, c'est on réarme. Ça veut dire quoi,
oui,
on réarme?
C'est, je me pose la question, oui.
Bah, je pense que beaucoup de monde se pose la question de savoir ce qu'il veut dire par on se réarme. On se réarme de quoi?
C'est une sorte de langage...
Enfin, c'est un langage extrêmement étrange.
Non, non, mais de langage subliminal pour parler en fait de ce qu'il fait en toile de fond ou ce qu'il essaie de faire, mais sans y arriver parce qu'on n'est plus du tout là-dedans, à savoir réarmer au niveau militaire.
Non, mais même réarmer, c'est mais à tous les niveaux.
Mais on
il
a
faut réarmer via la natalité, il faut sortir
les piquettes. On a un mal fou à fournir en armes les Ukrainiens, apparemment.
Il faut qu'on réarme.
Parce qu'on n'a pas les industries nécessaires. De même, les USA, qui avaient avant une cinquantaine d'usines d'armement, n'en ont plus que 5 depuis la fin du mur de Berlin.
Ouais, mais enfin, elle marche à plein régime. Hein.
Bah, non seulement ça, mais y a des goulots d'étranglement quant à la chimie, aux poudres. Voilà.
Donc, ouais, non, mais réarmer, il faudra vraiment que. Et ça, c'est pas fait, ça. Je veux pas passer pour un imbécile, même si je le suis là.
Moi,
c'est le cas récurrent, mais j'ai absolument rien compris à cette histoire.
Moi, le problème que j'ai avec l'Ukraine, c'est que je lis depuis une quinzaine de 3 semaines à peu près des trucs comme quoi il manque de munitions. Le nombre qu'ils emploient par jour est phénoménal, mais les Russes en envoient 5 fois plus. Des obus, etc.
Bah oui, ils sont aidés par la Corée du Nord. Oui. La Chine via la Corée du Nord.
Et l'Iran.
Mais nous, le problème, c'est qu'on a un langage d'aide. On est un des pays qui, en quantité convertie en dollars, bon, en tout cas, pour comparer avec les autres pays européens, on est un des pays qui donne le moins pour l'Ukraine. Mais on le fait en se donnant des satisfaits avec
les canons César.
Les canons César, c'est ça.
Il va y avoir un crowdfunding pour financer les canons
au crédit de notre grand.
Non mais c'est sérieux, grand, ça, un crowdfunding.
Grand généralissime.
Tu vas avoir une page
d'État.
Internet où tu vas pouvoir aller déposer tes 5 € pour financer un bout du canon en crowdfunding. Absolument hallucinant. Alors à noter un nouveau foyer, comme disent. Et les journalistes bien intentionnés de nos chers médias, l'Iran versus le Pakistan. Un nouveau foyer de tension. Mmh. Un de plus.
Ben, et puis, ce qui se passe en mer Rouge.
Oh oui, aussi. Mais ben, c'est déjà un qui est déjà comptabilisé depuis 2023.
Oui, mais comment...
Mon cher Yves...
Mais comment dirais-je en langage bobo? En langage bobo, je dirais oui, mais que ça rallonge quand même la chaîne d'approvisionnement pour les véhicules qui viennent de Chine et qui sont obligés de faire le tour par le sud de l'Afrique, tu comprends?
Ah bah, la Chine a dit aux Houthis...
Au niveau écologique,
la Chine
c'est
a dit,
pas très bon. Je plaisante là où il faut pas.
La Chine a dit aux Houthis, ça suffit, arrêtez d'attaquer les bateaux.
Oui, mais la Chine...
Évidemment, les siens, les leurs, ils passent par là. Ils sont un peu emmerdés, les Chinois, là.
Non, parce que ils ont déclaré, les Houthis, qu'ils ne s'attaqueraient pas aux navires russes et chinois.
Mais comment ils savent que c'est des navires russes et chinois?
Ça doit être possible.
C'est pas un sujet à marquer.
On a une position assez prudente en France. On n'a pas suivi les Américains sur le sujet. Pourquoi pas? Il faudrait vraiment que cette guerre qu'il y a en Israël s'arrête. C'est très très dangereux. Quoi.
Ah ben, on ne savait pas.
Non, enfin, on a décidé...
On ne le savait pas, figure-toi.
Moi, j'ai décidé de ne pas parler de ça ici, mais...
Non, pitié, ça suffit. Ça suffit, là. On est... Déjà, on ne comprend pas ce que Macron nous dit avec son réarmement tout azimut, là. Incompréhensible, là, en plus. Il n'y a même pas d'explication de texte. Je suis même pas sûr d'en avoir vu une dans un article... L'explication de texte sur cette espèce de vocabulaire complètement tordu.
Non, c'est vrai qu'on n'a pas
qu'il
entendu.
Qu'il a depuis, alors pourtant. Mais ceci dit, à ma décharge, Moi qui ne me réarme pas, donc je ne décharge pas.
Oui, je vais faire une réflexion du même type.
Donc, je regarde plus, pas vraiment toutes les émissions, j'écoute pas tous les éditorialistes qui blablatent sans fin sur. Mais j'aurais quand même aimé que l'Élysée même, le cœur du pouvoir, comme on dit, nous explique cette sémantique, quoi.
Il n'y a aucun média qui en a parlé, en fait, qui a expliqué ça. Il n'y a aucun média qui a expliqué ça. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, en tout cas, je n'ai jamais entendu un média expliquer ce qu'était que ce réarmement.
Le réarmement civique.
Oui.
Je comprends rien du tout à ce qu'on me raconte là.
Moins que l'affaire.
Donc, ils s'amusent à nous larguer. C'est-à-dire que là, on est perdu en haute mer. Et on n'a même pas un filet auquel se raccrocher, quoi.
Et non, après... je pense qu'ils supposent que avoir de l'autorité, c'est avoir un langage de ce type. Or, on a eu quelqu'un au pouvoir qui avait l'autorité, c'était De Gaulle, et il n'a jamais eu ce type de discours.
Il avait déjà ce genre de langage lors de l'épisode du Covid. On a vu ce que ça a donné, ça a fini en espèce d'eau de boudin total, où à peu près, pas grand monde a finalement compris où on allait, où on était, et ce qu'il fallait faire ou pas faire. Enfin, je veux dire, dans les grandes lignes.
Voici d'orienter la discussion vers mon sujet. Est-ce qu'il y a des nanoparticules de plastique dans l'eau de boudin?
Dans la tête de Macron, certainement. Alors, oui, puis on va parler de son... que tu m'as obligé à regarder. Heureusement que je me suis endormi plusieurs fois devant.
De quoi?
Son allocution, là, de mardi.
Ah oui, ça, c'est vrai. Moi, j'écoute toujours les chefs d'État quand ils font leur truc.
Enfin, on va pas en rajouter une couche à tout ce qui a pu se dire depuis mardi. Alors, ça remonte à 2 jours ou 3 jours. Mais il y a déjà eu tellement de choses dites et décrites que... Bon, c'est commentaire sur commentaire, mais... C'est...
En plus, là, tous les journaux s'interrogent sur les longs délais qu'il faut pour nommer les ministres qui ne sont pas des ministres d'État, en fait, qui vont compléter le gouvernement actuel.
Mais moi, je vais te dire un truc.
Et nulle part, je vois le fait qu'ils sont en train de vérifier à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s'ils n'ont pas des trucs qui leur interdiraient. Donc, il y a des enquêtes qui sont menées sur les prétendants. Et donc, tout ça prend du temps.
Moi, je te dirais que j'en suis à regretter un Chirac ou un Sarkozy, quoi. Au moins, c'était clair. Quand ils parlaient, on comprenait. Là, on comprend rien. Et après, on a affaire à une espèce d'androïde qui te parle pendant 2 heures, qui a réponse à tout, qui sait tout, qui maîtrise tout, tout va bien.
Une intelligence artificielle, voilà.
C'est un androïde. Et tout va bien en France, tout a été réglé, tout va être réglé, tout est en passe d'être réglé. No way, c'est génial. L'autoroute vers le bonheur, le développement, bref. On est la France du 21e siècle, c'est incompréhensible.
Mais une petite polémique aussi sur ces questions. Mais j'ai pas envie de parler de ça. Ils ont
quand même. On laissait les polémiques. Apparemment, ils auraient tâté du terrain.
Non, on n'en parle pas. Bon, voilà.
Ils auraient tâté du terrain, ils auraient donné les thèmes. Ils répondaient quand même de façon.
C'est contesté par certains. Il faut laisser venir.
C'était quand même répondu. Le mec connaissait parfaitement les sujets, les réponses, et il répondait de façon. Quasi instantané. Ça paraît très 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 bizarre quand même.
Non, ça me dérange pas.
Comment ça dérange pas?
Qu'ils répondent, qu'il est dans la tête, ça me dérange pas du tout.
Qu'il est dans la tête, les éléments de langage, les réponses.
Il a les éléments de langage, c'est un communicant.
Les réponses, oui, c'est un communicant, bien sûr qu'il les avait.
Donc il flotte sur ce truc.
Mais c'était extrêmement bien rodé. Très rodé, enfin...
Ça ne m'impressionne pas. Le problème qui me gêne, c'est quand il ne répond pas précisément à des questions précises.
Mais... Ah mais non, non, ça on l'a vu aussi.
Donc,
L'a vu aussi.
Et question précise, qui ne sont pas si nombreuses que ça, disons.
Et puis un peu de noyage du poisson, et puis un peu de... Finalement, écoute, elle est là au gouvernement, disons que j'ai un peu changé de point de vue. En gros, ça veut dire, écoute, je fais ce que je veux, puis je t'emmerde, quoi.
Ah ça, il l'a déjà dit.
Ça...
Au moment de l'affaire Benalla. Venez me chercher.
J'ai des ministres en examen. Oh, écoute, une de plus, que ça va faire, Ah, c'est quand même pas très grave. Enfin, voilà, on va pas rajouter du commentaire au commentaire, on voulait pas forcément en parler, mais ça nous a quand même un tout petit peu...
C'est toi qui t'as énervé, là.
Moi, ça m'a quand même un tout petit peu questionné d'en arriver là, quoi. Parce que là, c'est quand même, on va...
Bon, on perd du temps sur autre chose plus important, laisse tomber.
Non, mais là, c'est temps. Le Barnum Circus Show, là, le Macron Show, c'est de pire en pire. C'est on va enfin, je sais pas. On va de délire en délire. Et voilà. La grandeur de la France est posée là comme un objectif à atteindre. Et d'après lui... On l'a quasiment atteint et de nouveau on est cette fabuleuse hyperpuissance. Alors que tout nous dit un peu le contraire, quoi. Donc non, c'est très questionnant. Moi, ça m'a quand même un tout petit peu perturbé, cette espèce de cirque. C'est même pas une espèce de cirque, c'est un cirque.
Moi, ce que j'ai lu qui m'a amusé ensuite, c'est que les gens qui ont préparé la salle se sont référés à la salle, parce qu'en fait, c'est la première fois qu'il fait un truc comme ça avec les questions des journalistes. Il ne l'avait jamais fait depuis sa première élection. Et donc, ils sont allés chercher, ces équipes de communicants, comment faisait De Gaulle. Ils ont essayé de recréer un décor. Donc, j'ai lu un truc sur la hauteur du siège qu'on mettait de telle et telle manière, de façon à prendre la position de De Gaulle qui avait derrière son bureau quand il s'exprimait. Donc, c'est dire le soin du détail en espérant que ça suffise à faire passer les propos.
Ça, en effet, c'est une bonne référence.
Non, mais juste...
C'est vrai que c'est étonnant la manière dont il était placé, etc. La manière dont les journalistes étaient disposés aussi.
Hauteur de plafond, les lustres.
Oui, tout à fait.
Les caméras sur les ministres. Non, mais à un moment donné, tu te dis, mais ça impressionne qui ? Ça fonctionne plus. Tout ce Barnum ne fonctionne plus. C'est de la communication qui tourne à vide. Et ce sera le dernier mot pour ce sujet. Pause musicale.
Saved. place of paradise. The people lie, the people lie, one with your body. You are walking peace. What are things do not part? What are things do not part? Entering a pearl corridor, lying on your crimson spot, I become unconscious, saved, 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 saved.
Thank you.
Radio Show, alors que nous nous dissolvons dans le néant des ondes radiophoniques. À l'instant, une merveille qui, je fais un dernier petit aparté, aurait tout à fait scié aux ors de la République et de l'Élysée et de ces six beaux lustres. Dernière petite chose. Et après, on passe vraiment sur le sujet. Donc, que l'on m'explique de la part Monsieur le Président Roy nous explique, lui qui est un ex-petit enfant gâté, ex-adolescent lyrique, désormais playboy de l'élite, nous explique ce réarmement, puisque moi, d'après ce que je comprends, de façon un peu résumée, nous sommes donc les bons petits soldats de la nation.
Oui, on peut comprendre ça, ça c'est sûr.
Les bons petits soldats de la nation économique. Donc, de Poznan Radio Show, je vois que Yves soupire, oh là là, ras-le-bol, gna gna gna. Qu'est-ce que l'on vient de s'écouter à part Bauhaus?
Alors, c'était quoi, oui?
Juste avant, avec ce titre Saved, qui était un superbe titre. Hein.
Oui.
J'espère que tu es allé jusqu'au bout.
Oui, oui.
Parce que ça finit en Saved. Sauvez-moi, enfin, sauvez, je suis Saved, sauvé. Oui. Sauvez, ce qui n'est pas notre cas.
Je l'ai laissé dire jusqu'à la fin.
Ce qui n'est pas notre cas. Nous venons de nous écouter.
Farinelli.
Farinelli, un extrait du film Farinelli il castrato. C'est un film de 1994. J'ai chaud, je crois que je vais enlever un pull. Attendez, je le fais en direct, j'enlève un pull, puisque là, il fait très chaud dans le studio.
Ah oui, bah, tant mieux.
Là, j'ai chaud, là.
Mais la musique, elle est de qui?
Pardon?
La musique, il est de qui, ce morceau qui est dans Farinelli?
Attends, deux secondes. J'ai enlevé une de mes couches. Donc, ce film est un film de Gérard Corbiau. C'est un film de 1994, il me semble. Et ce que nous venons d'écouter, c'est le premier morceau de la bande originale, Son quale nave c'agitata. Je l'ai trouvé très rock, ce morceau. Son quale nave c'agitata. C'est un air de Arbace, de l'opéra Artaserse, de J.A. Haas.
Par contre, c'est pas des...
Alors, il y a marqué Riccardo Brocchi, 1698-1756.
Mais c'est pas des... Alors, des castrés c'est pas un castré qui a chanté.
Puisque les castrats n'existent plus.
Voilà.
Alors, grâce à un logiciel qui s'appelle... Enfin, une machine qui s'appelle... Le Travelling Ovidis,
oui,
à l'IRCAM en 93, 1993, d'après ce qu'il reste de comme écrit historique sur les voix des castrats, eh bien ils ont tenté d'en reproduire une. En prenant deux voix, ce sont des voix dans les aigus. C'est la voix de la soprano, donc une femme, Eva Malas Godlewska, et la voix d'un homme, un contre-ténor, qui s'appelle Derek Lee Ragin. Et ils ont superposé les deux voix, mis des points d'accroche. Alors, on imagine sur le logiciel, t'as la ligne enregistrée de la voix d'Eva Malas Godlewska, puis celle de Derek Liradin, et ils ont collé des points pour les ajuster les deux voix, qu'elles se correspondent pour donner cette tessiture.
Un travail incroyable, en tout cas.
Bah, c'est à l'IRCAM que ça a été fait. L'IRCAM est une des institutions culturelles et technologiques françaises qui, elle, pour le coup, est quand même une des merveilles du monde.
Oui.
Donc...
enfin, là, c'est de la musique baroque.
C'est de la musique baroque. C'est, donc, comme je te le disais, Riccardo, il me semble que c'est ça.
Joano de Faso.
Ouais, en même temps, il y a marqué Riccardo Brocchi, 1698-1756, comme je le disais. Donc, je ne sais pas qui est Riccardo Brocchi et qui est Haas, qui a écrit... Enfin, c'est Haas qui a écrit l'opéra. Mais après... les castrats. Pourquoi les castrats? Les castrats... Parce que l'Église interdisait aux femmes de chanter. L'Église catholique.
Oui.
Interdisait. Enfin, pardon, l'Église en gros.
Oui, l'Église.
Interdisait aux femmes de chanter au sein des Églises. Donc, pour avoir ces voix aériennes quasi féminines, il y avait les enfants, les jeunes garçons.
On sait qu'ils aiment beaucoup les enfants, effectivement.
Et d'un autre côté, jusqu'au XVIIe siècle, les femmes vont être interdites de se produire sur des planches, dans des spectacles, au théâtre. Elles vont donc être remplacés par des hommes qui vont soit jouer des rôles de femmes, soit chanter. Mais pour que ces voix perdurent à l'âge adulte, il faut une petite opération. Et la meilleure opération qui a été trouvée, alors assez tôt apparemment, je ne sais pas exactement quand, mais au XVe siècle, c'est l'ablation de ce qu'on appelle le canal spermatique.
Je vais tourner l'œil.
Ce qui se situe au niveau de l'appareil génital masculin et qui entraîne l'atrophie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai révisé, évidemment, ça aurait fait une somme de choses à raconter absolument incroyable, mais ça entraîne l'atrophie des testicules, ce qui entraîne une perturbation du développement hormonal. Donc tu as des hormones qui ne vont plus fonctionner, comme la testostérone, et d'autres qui vont fonctionner. Par exemple, donc cette opération qui est une opération bénigne, c'est une opération où il n'y a quasiment pas de mortalité déjà au 15e, 16e siècle. Elle est très maîtrisée. Ils savent faire ça extrêmement bien. Ces garçons proviennent principalement... Alors, ça commence à Venise. Ça commence en Italie, en fait. T'as Naples, Venise, Milan, mais surtout Venise. Et en fait, tous ces garçons proviennent d'orphelinats ou de familles pauvres qui souhaitent que leurs enfants aient une vie un peu meilleure et qui sont pris en main par les riches et l'Église. Et donc, ils subissent cette